Actu SF, les podcasts.
Eh bien, bonjour. Nous en sommes à la quatrième étape des débats sur le transhumanisme, intitulé chaque fois, cette fois, aux humains, le transhumanisme. J'ai peut-être rappelé que dès 1793, Condorcet notait dans son tableau historique des progrès de l'esprit humain, nos espérances sur les destinées futures de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces trois questions. La destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple, enfin, le perfectionnement réel de l'homme. Plus loin, il dit que le perfectionnement réel des facultés intellectuelles, morales et physiques peut être également la suite ou de celui des instruments qui augmentent l'intensité ou dirigent l'emploi de ces facultés ou même celui de l'organisation naturelle. Donc ces capacités longtemps fantasmées, désirées, sont en passe de devenir réalité. Que nous promet exactement le transhumanisme? Comment nous le vantons? Quelle que soit l'attitude adoptée face au transhumanisme, on cherche à le présenter avec des arguments forts pour faire adopter l'une ou l'autre de ces avancées, de la même manière qu'on a vendu des ordinateurs ou des smartphones à leur début en déclinant leurs avantages. Il est probable que la percée se fera avec des propositions très séduisantes en termes de confort et d'utilité, modulables selon les activités. Donner une vision plus performante avec des yeux qui permettent de zoomer ou de voir dans l'infrarouge pour disposer d'une vision nocturne, une capacité de réflexe accrue, une oreille étendue aux fréquences inaudibles à l'humain, seront des avantages que l'on pourra acquérir selon les besoins. Les projections dans les univers virtuels et les simulations numériques permettant de soupeser une molécule, de modéliser des objets sans avoir à réaliser des prototypes, la manipulation d'objets à distance ou une téléprésence plus immersive par le biais d'automates qu'on habite depuis chez soi sont d'autres possibilités d'extension du corps qui profiteront à ceux qui en auront l'usage sur un plan professionnel, relationnel, ludique ou artistique. Dans un essai intitulé « Philosophie et idéologie trans-post-humaniste », le philosophe belge Gilbert Autois note que le transhumanisme est d'essence matérialiste. Il évolue avec les technosciences, leurs instruments et leurs concepts opératoires, le tout dans une optique utilitariste. C'est un rationalisme empiriste et expérimental qui vise à la satisfaction des besoins et des plaisirs matériels, ou à cultiver plaisirs intellectuels, moraux, esthétiques, subtils et élevés. Les tenants du transhumanisme déclarent n'être ni scientistes, ni technocratiques. Le transhumanisme tient, selon eux, compte de valeurs éthiques, de justice, bien-être, compassion, liberté de croyance. Cependant, il est difficile de ne pas entrevoir, derrière les utilités, les améliorations, des progrès, des plaisirs qu'elle fait miroiter, un puissant désir d'un changement plus radical qui concernerait l'espèce entière. Une déclaration de la World Transhumanist Association note que l'espèce humaine peut, si elle le souhaite, se transcender elle-même, pas de façon simplement sporadique, un individu ici d'une manière et là un individu d'une autre manière, mais dans son intégralité, en tant qu'humanité. Mais les associations transhumanistes ne sont pas tout le transhumanisme. La façon dont ces changements se feront dépend de la façon dont elles diffuseront dans la société des moyens d'accès, des mécanismes de régulation ainsi que des dispositifs législatifs susceptibles de les encadrer. Ce sont donc des questions sociétales qui se posent et la place de l'humain au sein d'une société amenée à se transformer est interrogé de façon plus cruciale encore que du temps de la mécanisation qui avait exclu nombre d'individus du monde du travail. À qui profiteront les augmentations de l'humain? Eh bien, c'est de cela que nous allons discuter. Et donc, avec moi, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, Christopher Priest, qui est connu dans le monde entier pour son roman Le Monde Inverti, qui interroge notre réalité un peu à la façon de Dick, dans des romans très subtils, La Fontaine pétrifiante, Futur intérieur, Le Don, qui est devenu le glamour, et plus récemment les Insulaires, L'Adjacent, L'Inclinaison, qui explore son univers des archipels qu'on retrouve dans de nombreux livres. Il a obtenu une douzaine de prix, dont 5 British Awards, le World Fantasy Award pour le prestige, adapté au cinéma, et 2 Grands Prix de l'Imaginaire, reçus ici même d'ailleurs, et le prix Utopia pour l'ensemble de son œuvre. Et donc son nouveau roman, Conséquences de disparition, revient sur les événements du 11 septembre. Robert Jackson Bennett, né à Baton Rouge en Louisiane, qui a étudié à l'Université du Texas, a commencé en tant qu'auteur avec le roman Mr. Shivers, qui a été traduit en français. Il a ensuite écrit The Company Man, The Troop et American Elsewhere, qui vient juste de sortir dans la nouvelle collection dédiée à l'imaginaire chez Albin Michel, dirigée par Gilles Dumais. Et donc, ce roman a eu le prix, justement, Shirley Jackson. Et en même temps, il a publié Foundryside, le premier volet d'une nouvelle série qui est plutôt dédiée aux villes et aux cités, où la réalité a été distendue, augmentée ou ébranlée. Et puis Raphaël Granier de Cassagnac, écrivain et physicien des particules au CNRS, il cherche à caractériser le plasma de quark et de gluon. Il est l'auteur de deux romans, Thinking Eternity et Eternity Incorporated, qui nous montrent un futur proche avec des clonages, des réalités virtuelles, des implants cybernétiques, on aura l'occasion d'en parler. Il a aussi dirigé les premiers ouvrages de la collection Ouroboros chez Mnemos, qui sont des livres illustrés offrant une immersion dans l'univers d'un auteur ou de plusieurs auteurs comme Jules Verne avec Un homme dans les airs, Lovecraft avec Kadat, ou dans des univers inédits jadis. Et il s'intéresse maintenant aussi au cinéma d'animation, aux jeux vidéo. Je tiens à rappeler aussi que grâce à Raphaël Granier de Cassagnac et à Mathias Echenet, l'éditeur de La Volte, il a permis à des auteurs de science-fiction de visiter le LHC au CERN à Genève. Nous avons été plusieurs à pouvoir vivre cette extraordinaire aventure au début de cette année. Voilà. Donc, première question, est-ce que ces augmentations profiteront à tout le monde ? Quelle société se dessine à partir de là ?
Pour moi, toute la question est là et la réponse, on ne la connaît pas en fait. Le paysage des hommes augmentés est très différent selon effectivement que tout le monde a des... Alors, il y a plusieurs façons d'augmenter l'humain, on en parlera peut-être. Hein. On peut en aborder deux, disons l'immortalité et la cybernétique, donc un peu deux extrêmes. Et toute la question est là, c'est-à-dire que si tout le monde devient immortel, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, je pense, on s'en sortira bien. Nous, mortels, on s'en sortira bien, puisqu'on sera plus mortels, on sera immortels. Si, à contrario, l'immortalité n'est accessible qu'à une petite fraction de gens, et ben là, il se pose tout un tas de problèmes. On crée une nouvelle forme d'humain, comment elle va interagir avec les humains mortels, etc., etc. Donc, toute la question est là. Pour la cybernétique, c'est pareil. Si les implants cybernétiques sont accessibles à tout le monde, je pense que ça va être relativement simple de gérer les problèmes sociétaux qui peuvent émerger de ça. En revanche, si les implants cybernétiques n'appartiennent qu'à une caste de riches, parce que c'est sans doute le plus probable, eh ben, il va se passer des choses, des ghettoisations, énormément de choses qui existent déjà, hein, avec autre chose que la cybernétique, mais la cybernétique va avoir les mêmes problèmes que d'autres, que les problèmes raciaux, etc., etc. Pour moi, c'est toute la question est là, en fait, dans la vraie question grave derrière le transhumanisme, c'est pas tant le transhumanisme lui-même que à qui ça profitera à la fin. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir, je pense.
Chris.
Hello. Is this working? Yeah. I'm not an expert on this subject at all, but I do have a few thoughts. And the my own approach to any technology is to try and understand the past of how that influences our view of the present, and from that get some clue as to how we will understand the future. An example of this, a very simple example, is the mobile phone. which, had it been created for public use as a walkie-talkie radio, it would have been completely different in the way we use it now. We'd be, it wouldn't be the augmented aid to understanding and information that we have now. It would be seen as a kind of heavy radio that had limitations. And the fact that somebody decided that it was actually essentially a telephone, although in fact the use as a telephone is it now, is the minor aspect of the use of a mobile phone. So looking at augmentation, what would it be? Now, if you give a man who is lame a walking stick, you enable him to walk. Now, is his life therefore augmented or corrected? In a sense, it may be destined that he should not walk. So therefore, giving him a walking stick gives him an ability perhaps he has not evolved into. And the same is true of many other common augmentations, such as, say, hearing aids. They enable the deaf to hear. Spectacles, which enable the partially sighted to see better. Toupees for the people who are going bald. And false teeth for the people who can't chew properly. All these are augmentations. Now, in a sense, they are understood as corrective augmentations. They're not seen as additional. They don't convey extra powers. They replace powers that are lost. So if we're going to understand the kind of electronic or digital enhancement of human life in the future, I think it's just wrong to approach it from the point of view that all of a sudden we'll be able to fly in the trees or cross the Atlantic in 2 minutes or whatever ability this technology is said to bring. What it will do is to repair the travails of destiny.
Yeah. I think that, there we go. I think that's exactly right. That the first thing that we're going to do is try and use these tools to solve problems. Like what they're doing right now with CRISPR, which I don't know how to translate that in French, is the gene-altering tool that is amazing and frightening, where you can change our genes very simply. Pretty much like in your garage, you can use this tool. What they are doing with the first, of course, is trying to stop diseases and stop syndromes and things like that. And there's really never a question of if this is right or wrong. Like if my child is sick and CRISPR can help him, then I'm never going to be like, well, is this changing what it means to be human? I'm not thinking in those terms. I just want my child to be healthy. And I think once we start to use these tools to fix problems, it's going to change how we think about them. Once you know that a tool works, like a saw, you suddenly see a lot of things to cut. You see a lot of problems that you can fix with it. So the question I really think is, if transhumanism becomes possible, are we even going to notice? It's just going to see like a natural use for a tool that we know works quite well.
Voilà, mais toutes ces transformations ont certainement un coût. Et à ce moment-là, on va se demander à qui cela profitera. Est-ce qu'il n'y aura qu'une seule élite qui y aura accès, avec une société de laissés pour compte qui seront laissés sur le bas-côté?
Oui, comme c'est je disais, tout va dépendre du coût, hein, c'est évident. Si ces améliorations sont chères, ce qui est probable, peut-être pas pour tous, hein, mais je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, ça a l'air de pointer vers des augmentations plutôt chères. Alors forcément, il n'y aura qu'une minorité qui va en bénéficier. Et le problème, il surgit parce que cette minorité, elle sera certainement vue comme menaçante aux yeux de ceux qui ne sont pas dans cette minorité. Et c'est déjà le cas pour plein de choses. Hein. Je pense que on peut penser au système capitaliste. Hein. Dans une certaine mesure, les populations voient les corporations, les très grandes corporations, comme menaçantes. Aujourd'hui, tout est assez pacifié, hein, mais il n'y a plus vraiment de révolution ou de choses comme ça active contre le capitalisme aujourd'hui, mais il pourrait y en avoir. Mais c'est qu'un exemple. Hein. Et donc, si cette minorité, donc la minorité augmentée, est vue comme menaçante, et ben nécessairement, à un moment, il y aura des rébellions
qui vont mener à des répressions et qui vont mener ultimement, et je pense que c'est le scénario le plus probable, à un contrôle. C'est-à-dire que les riches augmentés, s'ils veulent s'en sortir, il faut qu'ils arrivent à contrôler la population qui n'est pas augmentée. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà dans, c'est même, peut-être même la définition de la politique, en fait, dans un sens très général. Si, au contraire, ces augmentations sont relativement peu coûteuses, on est déjà augmenté, hein, avec nos téléphones portables, on est déjà pas mal augmenté, ça nous donne des facultés qu'on n'avait pas avant, qui ne sont pas intégrées dans nos corps, bien que c'est en train de se rapprocher, c'est vraiment une extension de la main, le téléphone portable, hein, donc on est de plus en plus proche d'une intégration assez intime. Donc si ces augmentations elles sont peu coûteuses, donc offertes à tous, hein, dans une certaine mesure, eh ben, ça va se passer relativement bien, je pense.
Vous voulez intervenir?
Yeah, I would agree that it depends on cost a lot, and I'm encouraged and also threatened by things like CRISPR, which like I said are extremely cheap. It's very easy to do. They actually have kits that you can have sent to your house in the States, and you can CRISPR like plants. You can change the genes of plants in your home. So this is something that can be done by pretty much anyone. Of course, these things aren't approved, they're not regulated, and if it comes to actual healthcare, you know, that proposes a lot more hurdles that you have to jump over to bring it into actual use. But I do think that because it's so cheap and relatively easy and accurate, that we'll see it get used a lot. I think that if there are any sort of barriers that will keep certain people from having it, then there'll be ones that are there right now. Like in the States, healthcare is extremely expensive. It's very hard to get. What I think would be worth looking at is seeing what things have technology changed already. They've changed how we talk, how we do movies, but they really haven't changed how we move around. There's no new modes of transportation, really, not yet. They haven't changed how we go to school. You still have to go to school. There's some new things that you do with school, but school is still school. They really haven't changed healthcare that much. Technology struggles to really make any sort of deep penetration there to make healthcare like available for everyone. And I think when it comes to trying to give real benefits to more people, that's where human society has created a lot of rules and regulations and structures, and technology struggles with that. It works best in a wide open space where no one says what you can or can't do. So if these things get blocked or get limited to the powerful of the few, it won't be because of something new. It'll be because of what's happening in our societies right now.
Oui, je suis complètement d'accord. Et puis le fait que, Robert, tu prennes les exemples médicaux est édifiant. En fait, aujourd'hui, la cybernétique, elle est en train d'arriver essentiellement dans le milieu médical. On n'est pas dans les scénarios cyberpunk classiques. Hein. Ce n'est pas des méga-corporations ou l'armée qui est en train de... Enfin, ils le font sans doute un petit peu et on n'est peut-être pas au courant. Mais ce n'est pas ces organismes-là qui sont en train de faire avancer la cybernétique de façon assez importante. Je pense que c'est à deux endroits. C'est les milieux médicaux. Et là, on est plus dans la réparation que dans l'augmentation, comme disait Christopher tout à l'heure. Pour l'instant, on répare des gens, on ne les augmente pas encore. Et en fait, en les réparant, finalement, on ouvre la porte à l'augmentation. Mais la première volonté, c'est d'abord de les réparer. Et ça se fait dans le domaine médical. Et ça se fait de façon éthique. Il y a des comités d'éthique qui regardent ça maintenant. Alors, ça, moi, je trouve que c'est... Oui, on a des problèmes de traduction ? Non, de... technical problems. Donc c'est à la fois éthique, et donc ça c'est dans le milieu médical, et l'autre endroit où ça apparaît aussi, et ça moi c'est peut-être ce qui me fascine le plus, c'est dans le milieu artistique, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des artistes, performeurs, qui se modifient, qui font des expérimentations cybernétiques,
sportifs.
Et je trouve assez intéressant que ça, la cybernétique émerge, enfin elle est visible en tout cas par ces deux biais, qui sont plutôt positifs, moi je trouve. C'est pas, on n'est pas dans, enfin, ouais, faire de l'art et soigner les gens, c'est plutôt des buts que je pense on est tous d'accord pour convenir que c'est plutôt noble. Donc moi je suis plutôt optimiste sur la partie implant cybernétique proche, c'est-à-dire les choses qui vont arriver demain. Je suis plutôt optimiste sur le fait que sans doute ça va concerner beaucoup de gens, enfin ça va pouvoir concerner beaucoup de gens, et que l'angle d'attaque est plutôt bien parce qu'il part d'un angle d'attaque. Vous voyez, l'angle d'attaque est plutôt noble dès le départ, quoi.
Bon, je suis un peu optimiste là, mais...
C'est une porte d'entrée, mais la porte d'entrée, souvent, à partir de là, tout le monde s'engouffre et puis il peut y avoir des dérives. Donc on peut aussi imaginer que demain, à ce moment-là, les augmentations seront proposées à tous les humains parce qu'il pourrait y avoir un intérêt, disons même économique ou sur le plan du travail, la possibilité d'accès à des carrières, des emplois, des activités qui sinon seraient hors de portée. Quelqu'un qui est plus efficace à son travail, quelle que soit son activité, avec l'augmentation qu'on lui propose, ça sera peut-être une béquille pour certains, une chance supplémentaire pour d'autres. Alors une sorte de chirurgie esthétique plus, est-ce qu'on risque d'arriver à un marché de la métamorphose qui oblige tout le monde à s'augmenter au fur et à mesure pour pouvoir suivre le rythme de l'évolution et du monde du travail.
I've been trying to think if I've ever written about anything like this, and I think the closest to it is a novel of mine called La Fontaine Pétrifiante, which in English means the petrifying pool, of course. And there are several of these in Britain. They are pools where there is a high concentration of natural calcium carbonate. And if you put an object into the water for a few days and a few weeks, it will turn to stone. It's and so people come along, they put their shoes in and their dead cats and terrible things like this and end up with a concrete dead cat, which is, seems... But I use this as a metaphor for the results of augmentation. It seemed to me that the novel I was writing essentially had described a medical process with which it was possible to create physical, material immortality. So once you had the treatment, you would never die. And because it was so expensive at first, they just gave it to a few selected people, great, you know, Nobel laureates and great philosophers and important writers and people like this, and gradually discover one by one these people were refusing to accept it. They never really said why, but it seemed very mystifying that the one thing that they thought they could give to the world, they didn't really want. So at this point they changed the method and made it into a public lottery. So every month a few people, at random, were awarded this treatment, and the character in my novel is one of them, and thereby hangs the story. But I was very interested in why, as it were, intellectuals, great philosophers, would turn their backs on philosophy, because that's how I felt it would be. And it seemed to be, to me, that eternal life was kind of anathema to the whole of life, that life and death are the two ends. These are the birth and death are the as it were, the punctuation of a life. And you take one away, then the syntax of the sentence goes wrong. And that it would become something that was preserved forever but no longer alive, like a living thing that turns to concrete in a petrifying pool. So that is my contribution to this discussion. I have one more if you want it.
Non, tu parlais du travail, de la cybernétique et du travail. En même temps que les implants cybernétiques augmentent, la robotique augmente et l'intelligence artificielle augmente. Et quand on pense au travail, moi je crois plus en un arrêt du travail humain qu'à l'utilisation d'humains cybernétisés dans le travail. C'est-à-dire que déjà dans les chaînes de montage, on a des robots et c'est depuis longtemps. Je vois pas l'intérêt, si on pense à des Robocop, quoi. Je vois pas l'intérêt d'aller mettre des Robocop dans des chaînes de montage, par exemple. Donc je crois pas que les humains cybernétisés vont... C'est cette compétition que tu décrivais, là, entre humains cybernétisés dans le monde du travail. Je crois plutôt en un arrêt... Enfin, en tout cas, une refonte profonde de la question de travail liée au fait qu'on peut déléguer énormément de choses à des machines aujourd'hui, et c'est pas nouveau. Il reste quand même des tâches complexes dans lesquelles... L'humain reste quand même assez indispensable. Et là où moi je suis un peu plus inquiet, c'est qu'il y a un endroit où je pense que la cybernétique et l'humain va rester, c'est l'armée, en fait.
Je ne pense pas qu'on ait des travailleurs, des ouvriers augmentés, par contre des soldats augmentés. Et en fait, dans une certaine mesure, ça existe déjà. Hein. Un soldat, aujourd'hui, il a 40 kilos de barda, c'est de la pure technologie. Alors, ce n'est pas encore très intégré à son corps, mais dès que ça pourra être intégré à son corps, je pense que là, effectivement, dans l'armée, il risque d'y avoir une compétition. Mais c'est déjà le cas, hein, dans l'armée est très sélective sur d'autres critères que l'augmentation. Et sur le monde du travail, il y a une autre chose qui me fascine, c'est que une cybernétisation qui existe depuis longtemps et qu'on pourrait tous avoir, c'est des puces RFID qu'on peut implanter par exemple dans le gras, là, entre le pouce et l'index. Ça existe depuis 20 ans, ça. Et il y a des compagnies qui ont essayé de forcer leurs employés à en avoir pour badger, pour la cantine, pour des choses comme ça. Et ça prend pas, ça prend pas du tout. On a tous un téléphone portable, hein, il y a 20 ans ça balbutiait, la puce RFID c'est pareil, il y a 20 ans ça balbutiait. Ben, qui a une puce RFID ici? Personne. Peut-être si quelqu'un là qui lève la main. Voilà, il n'y a personne qui a une puce RFID ici. Donc je... Ah, you do. Ok, donc il y a juste Christopher qui est... Donc je ne crois pas que dans le monde du travail, on rentre dans cette folie de se cybernétiser. On est déjà, enfin, le monde du travail est déjà un peu dingue, hein, il n'a pas besoin de ça pour...
Ce n'est pas obligatoirement la cybernétisation. On est peut-être obligé de contrôler plusieurs écrans et plusieurs machines à la fois, ce qui demande une certaine réactivité, un certain nombre de réflexes accrus pour contrôler des machines qui... demanderont peut-être d'augmenter le cerveau pour ça ou d'augmenter la capacité de réflexe. Il y a aussi, je pourrais citer Nancy Kress avec L'une rêve, l'autre pas, où les personnes modifiées n'ont plus besoin de dormir. Ça leur procure un avantage considérable sur le reste de la société, puisqu'elles gagnent le temps de sommeil dans des activités. Même si ce n'est peut-être pas... pour demain, l'abolition complète du sommeil, mais le fait de pouvoir tenir plus longtemps et d'être toujours efficace pourra peut-être changer certaines choses. Il y a quelque chose de très intéressant à ce sujet, je vous invite à aller regarder au pôle ludique où il y a un jeu de rôle fait par Antoine Tissot qui s'appelle simplement H+, donc Humanity+, qui propose... pour chaque joueur, un certain nombre de cartes de prothèses à pouvoir acquérir. Et avec quelques difficultés, celui qui n'a pas de prothèse a un travail moins gratifiant que les autres, mais il peut y avoir des taxes et des impôts pour un petit peu réguler tout ça. Il y a des aides sociales pour ceux qui n'y ont pas accès. Il peut y avoir des crises énergétiques, des piratages aussi. On peut se faire hacker son implant cervical et puis faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas envie de dire. Et il y a aussi une concurrence avec le robot. Bon, voilà, enfin, vous pouvez peut-être vous acclimater aussi en allant voir ça. Alors, effectivement, que fait-on s'il y a des personnes qui sont réfractaires à ces augmentations, qui peut-être viendront progressivement, de la même manière qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas acclimatés à l'informatique, n'arrivent pas à se connecter sur le site de la Sécurité sociale ou autre, que deviendront-ils ?
If I may say so, I think this we're talking about the wrong thing. We're talking about the technology and its impact on humanity. And I think the first step of that is really a better understanding of humanity. And I want to tell a fairly long anecdote, which has a point to this. So a few years ago, the University of Minnesota in the USA set up a project in which identical twins had been separated at birth and were taken away and given to different families to be brought up. And this project at Minnesota took place, and I think in the 1960s. These babies were now adults. They were traced, found, and it was proposed to them that they would like to come to the campus and meet their brother or sister that they probably had no idea even existed. And this was the central condition, that these people were identical twins, but they didn't know they were twins. They didn't know they had another sibling who looked just like them. What they discovered on meeting each other and the people running the project was that these twins, although developing completely separate lives in external ways, had haunting similarities. They often had the same hand mannerisms, or face mannerisms. They would use the same sort of slang. Then it went a bit further. They would find that they'd married, and quite often they married spouses with the same name, like one would marry somebody called Marie, and somebody would marry Marianne. And further than that, they would have children, and they would give the children the same or very similar names. And then they discovered that a lot of these twins had suffered accidents. And quite often these accidents happened intriguingly close to each other, often on the same day. There was one pair of twins who had both broken a leg falling downstairs on the same day, thousands of kilometers apart. They didn't even know each other existed, but they both had the same accident. And now, the point of this story is that we found out about their humanity because there was a kind of controlled experiment going on. There was something to compare a human life to that was both independent and dependent. And what it raised in my mind was the question of, what about us, the people who aren't identical twins? Do we have a sort of hidden destiny? Are we doomed to break our leg in a certain day, a certain way, on a certain day, irrespective of whether or not we've got a twin? And that only by having a twin we find this out? Now that to me is very interesting. I don't think there's much of an argument to be made for a determinist lifestyle, but I must say that when I heard what was happening to these twins, it really made me question everything I thought about, like free will, opportunity, decision making, spouse finding. All these things seem to be part of a larger pattern that I had no idea previously existed. And to me, I think we don't understand this yet. I think it's we're talking about augmenting human life. I think we've got to understand human life first.
I think it's worth saying that just to like acknowledge that we're not going to understand what we can't understand. Like, our way of life that we have right now is incomprehensible to someone 100 or 200 years ago. The idea, like, for example, there's a chance that I might live to be 80. I'm probably going to keep all my teeth. Like, my children will live past 5, because, like, you know, it was only like 100 years ago where 5 out of 7 children died before the age of 5. These were just accepted as facts. And so I think it's worth saying that what's coming next for humanity is going to change it in the same way that we have changed from what we used to be. So we're not going to be able to understand the next stage of life. Like, whatever it is, we're going to be like the guy 100 years ago who can't imagine the idea of living until 80 and like enjoying it and keeping all of his teeth. That's just something that he can't comprehend. But I do think that one thing that I think is worth pointing out is that we said that that we don't want humans to be like the people who don't understand technology, who can't operate a website. And I think what's most of these people generally know that they should be able to do that. That like, that's just how things are. Like, once things have moved past a certain point, like Snapchat. I don't understand how Snapchat works. It's made for kids. And they've made it in a way where if you're over 30 years old, there's no way. There's no way that you're gonna use it. But I know that that's not on me. That's not my responsibility to learn how to use this tool. So I think that that's less of an issue. I'm much more worried about not being able to understand like how my kids are going to be when they're 40 or 50. The gap between my life and their life is going to be much vaster than the gap between my life and my dad's life.
I've never accepted this argument that people who can't do blogs and the internet shouldn't be allowed in. The thing is, everyone here
Everyone here today is a computer expert. You go to a hotel, you're interfacing with a computer. You fly, you go on the train, you're interfacing with a computer. Every time you draw money from the bank, you're interfacing with a computer. Every time you buy petrol for your car, you're interfacing with a computer. The box on the desk with machine code is really a thing of the past. The computers have now been commodified. That argument, I'm afraid, is dead.
Et alors à ce moment-là, le transhumanisme est-il vraiment un humanisme ou peut-être une nouvelle religion ? Dans Thinking Eternity, justement, la question religieuse est bien posée, où même si le personnage principal qui avait été énucléé suite à un attentat et qui s'est fait mettre des yeux électroniques, il se sent d'abord diminué. Et ensuite, il apprend qu'il a quelques ajouts qui lui permettent de zoomer, de voir dans l'infrarouge, commence à créer des sociétés, histoire de promouvoir tout ça, et se rend compte que la manière dont c'est reçu le dépasse complètement.
Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Merci de parler de Thinking Eternity. Donc mon personnage, il est... Il se retrouve en fait malgré lui, c'est ce que tu disais, à la tête d'une espèce de religion de la science. Alors il faut faire très attention avec les termes quand on parle de religion, évidemment. Mais pour être plus précis, donc il se retrouve à raconter la science, le Big Bang, la théorie de l'évolution, dans des endroits où c'est pas raconté. Et vous avez peut-être entendu parler de ça, mais il y a de très nombreux endroits dans le monde dans lesquels personne n'a entendu parler de ça. Et ça concerne une très grande fraction de la population mondiale. Et même dans certaines écoles américaines, on est en train d'aller un peu à rebours sur ces questions-là. Et ça marche, c'est-à-dire qu'il rencontre un appétit pour la question existentielle, en fait. Donc c'est en ça qu'il marche sur les plates-bandes de la religion. C'est-à-dire que je pense que l'humain a envie de savoir d'où il vient, veut comprendre, veut avoir une idée de où il peut aller. Et donc n'importe quelle réponse à ces questions-là l'intéresse. Et donc c'est comme ça qu'il se retrouve à la tête d'une religion qui refuse, évidemment, lui ne veut pas être un gourou, c'est un scientifique, j'ai envie de dire, de base au départ, donc il refuse tout ce genre de qualificatif-là. Et ça marche en particulier parce qu'il porte la technologie sur son visage. Comme tu disais, il a des yeux cybernétiques, et dans ma description, enfin dans mon roman, c'est des yeux très visibles, c'est une espèce de grosse bille d'acier. Au fond de la salle, là, vous verriez si j'en avais. Et donc il porte la technologie sur sa figure, et donc c'est ça qui le propulse un peu comme une espèce de messie. Alors quand on dit au pendant des mouvements transhumanistes, quand on parle de religion, il le refuse également. Il refuse en général massivement l'hypothèse que le transhumanisme pourrait être une religion. Encore une fois, ça dépend de quoi on parle. Hein. Si la religion c'est une croyance, moi je pense que dans le transhumanisme il y a une croyance, il y a la croyance qu'il faut s'augmenter, qu'il faut aller au-delà de ce que l'humain est aujourd'hui.
C'est dit dans leur texte.
Ouais. C'est ça. Et donc, il y a croyance, c'est sûr. Après, il n'y a pas divinité, il n'y a pas ce genre de choses. Il y a croyance, il y a peut-être aussi un peu dogme. Et donc, je pense que c'est un peu sous cet angle-là, c'est un petit peu une religion. Et tu demandais si c'était de l'humanisme. Pour moi, le transhumanisme, il fait partie de l'humanisme, en fait. L'humanisme, c'est s'intéresser à nous, humains, réfléchir à ce qu'on est et comment on interagit avec tout et n'importe quoi. Et donc, le transhumanisme, c'est une partie de l'humanisme. On pourrait même, à la limite, imaginer comme on fait pour le genre, on pourrait dire qu'il y a le transhumanisme et le cishumanisme. Donc le transhumanisme, c'est quand on s'intéresse à se modifier, puis le cishumanisme, ce serait peut-être quand on s'intéresse aux fondamentaux et donc peut-être plus vers le passé.
Robert. I think that we're in the hype stage for transhumanism, where it's this new thing and we're all excited about it. And when you start to hype something, you notice that you start to talk like it's like it is a religion. Like technology. In Silicon Valley, they'll tell you all day long that they're changing the world. What they're doing is changing the world. And you ask them, what are you actually doing? And they're making a system that can put ads in front of you better, faster. And like, that's not really changing the world. It's making lots of money. It's kind of scary. But it's not really changing the world in the same way that a religion is. We had the same thing with self-driving cars. There was a lot of talk that we were going to have self-driving cars like 2 or 3 years ago. Everyone was all over it. And there's a graph that they actually have about hype, where like it goes up to here, and then it comes down, and then it kind of goes up. And they realize basically that self-driving cars are actually kind of will be pretty hard to do. It's not going to be that easy. So the hype comes down, and what happens is you start to find problems for which this is a solution, and it's usually not as cool as you thought it was going to be. But it's still a solution that someone is willing to pay money for. So you start to put that out in the market to get paid for your service. And then it becomes something different. It becomes boring. It becomes normal. It becomes something that you use every single day. It's not a religion. It's not something that is amazing. It's just something that I like. Of course I use my phone to see what that building is like across the street and look up the history for. That's something that like 10 years ago would have been amazing, but now it's me screwing around on my phone. It's something that my wife is like, could you please put that down for 1 second and please talk to me? So I think what we're going to see is transhumanism is probably not going to be something that from our point of view will change the world and make us like immortal and make us different or whatever. But you're going to first see our problems we find solutions to, and that's going to change our beliefs about how these tools are being used and implemented. That, and because then once the tool works, it's boring and you start to use it for all kinds of things. That'll be when things start to get different. But I personally have no idea what that's going to look like.
On peut peut-être ajouter que le transhumanisme ça existe en fait depuis super longtemps. Notre expérience de vie a augmenté dramatiquement, tu le disais tout à l'heure. Et quand on lit les manifestes transhumanistes, ils veulent augmenter l'être humain. Enfin, ouais, l'idée, c'est d'augmenter l'être humain, mais on fait ça depuis toujours, en fait. Depuis que, je disais hier à la radio, depuis qu'un homme préhistorique a ramassé une pierre et l'a jetée, on s'améliore tout le temps. Alors, ça prend une dimension un peu dramatique aujourd'hui. Alors, la société de l'information qui aide pas mal, je pense. Hein, on aime bien faire du buzz et tout ça, donc... transhumanisme, c'est un buzzword qui est assez utile, je trouve, mais c'est pas nouveau. Donc ça, c'est la première composante. Et la deuxième, c'est vraiment l'atteinte, et c'est le thème des utopiens, l'atteinte au corps, quoi. C'est-à-dire que bon, notre corps, on le modifie déjà hein, depuis longtemps, de plein de façons. On parlait des lunettes, de plein de choses. Hein. Mais là, on a vraiment la peur que ça soit de plus en plus invasif et que ça nous modifie dans notre essence un peu plus profonde. Et je pense que c'est ça le spectre qui se dessine. Mais qui est dans la lignée de tout ce qu'on fait depuis que l'homme est homme, hein, je pense.
Oui, très bon.
I think that when you first start to talk about transhumanism, like you get excited about what could be, because it's the idea, because it, like it's this concept of having to break from the natural. You can break away from the natural, but first you should ask, what's natural? Like the bathroom is not natural. I'm still going to use it because it's better than the alternative. Like nothing about the way that we live is natural. It has been natural for a very, very, very long time. So it's this idea of changing the way that things used to be normal. Things have not been normal for a very long time. They're never going to be normal ever again. So I think that that's a much better way to frame this idea of change.
Il est peut-être temps de donner la parole au public s'il y a des questions parmi eux. Il y en a plein.
Merci. Welcome to Britain. Bonjour. Alors ma question est celle-ci. Là, j'ai noté quelque chose d'intéressant. Puisqu'en 2006, le commissariat à l'énergie atomique et l'INSERM, je vais lentement, c'est pour la traduction, donc en 2006, le commissariat à l'énergie atomique et l'INSERM ont travaillé sur des implants neuronaux utilisés comme interface cerveau-ordinateur, ICO, et en anglais, BCI. Et l'Europe a actuellement un projet de modéliser, tout les neurones du cerveau, c'est le projet humanbrainproject.eu. Alors ma question est celle-ci, va-t-on développer avec cet esprit d'implant dans le cerveau, cet esprit transhumaniste, va-t-on vers un eugénisme technologique? Va-t-on développer, créer, fabriquer un neurototalitarisme? Merci.
Je pense que personne n'a la réponse à cette question aujourd'hui. Encore une fois, tout va dépendre de comment ça va évoluer. Moi, comme je disais tout à l'heure, justement, le fait que, par exemple, ce soit le CEA et l'INSERM qui sont des organismes publics, qui sont derrière des choses comme ça, ça me rassure un petit peu. Pas complètement, hein, mais un petit peu. Je trouve que c'est mieux que si c'était des organismes privés. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, la porte d'entrée dans la cybernétique aujourd'hui, elle est plutôt positive. Et comme tu disais, c'est une porte d'entrée. Ça ne veut pas dire que demain, d'autres gens avec des intentions bien moins louables vont s'en emparer. Il y a de l'éthique là-dedans. Il y a des comités d'éthique qui travaillent vraiment là-dessus. Et on voit hein, sur les implants cybernétiques pour la santé, il y a toute une série de règles en particulier. Et je pense que l'INSERM a eu un rôle à jouer là-dedans. Donc on n'a pas le droit d'utiliser un implant cybernétique s'il y a une solution non cybernétique en médecine aujourd'hui. Il y a toute une série de règles comme ça dont celle-là est celle qui me rassure le plus. C'est-à-dire c'est pas galopant quoi. La machine s'est pas encore emballée. Je pense qu'elle s'est emballée pour la société de l'information par exemple. Hein. C'est-à-dire dans le cyberpunk il y a souvent la cybernétique et la société de l'information. Dans la société de l'information, Internet c'est parti d'une bonne intention. Aujourd'hui, on ne sait plus trop où sont les données, il commence à y avoir des problèmes, donc là, ça s'est emballé. Pour l'instant, pour la cybernétique, je n'ai pas l'impression que ce soit emballé. Ça ne veut pas dire que demain, ça ne va pas partir en vrille. Mais sur l'exemple concret que vous disiez, ça me rassure plutôt, en fait.
What worries me is, so, on my phone, I have an app for Gmail. And when I look at my mail, sometimes there's a link that I have to click up, that I have to tap and open. And it opens in Safari. But before it does that, it says, hey, do you want to do this in Chrome? Do you want to download Chrome? It'd be better if you use Chrome. It's a Google product. Want to try Chrome? Imagine that in your brain all the time, where you're trying to make a choice, and there's just this kind of little nudge, being like, oh, do you want to sleep in that bed? Why don't you buy a better bed? This is a Google bed. And you're like, I want to go to bed. I'm very tired. Like, but... That is what worries me, and I think we're seeing that with a lot of technology, where... Once your life depends upon an access point, the question you start to wonder is, who is controlling this access point? And I think we are starting to change the way we talk about the internet from a commodity to a public utility, like water. Like you don't like want to have a private corporation that's in charge of your water. Where they're like, hey, we're going to put some extra stuff in here that'll make you extra, like even thirstier, where you have to, like a little bit of salt actually makes you thirstier, keep drinking our branded water. And we haven't solved that problem yet. We haven't found a way to use this technology in a way, or find a provider of this technology that will give us the same freedoms as we have with just water or power. And until we resolve those problems, I'm not sure if we will. I personally would be cautious about the idea of letting technology inside my brain and controlling all of my choices to a certain degree, if that makes any sense.
Je peux peut-être rajouter une chose, c'est intéressant. La comparaison avec Internet, elle est géniale en fait, parce que donc Internet, ça a démarré de façon extrêmement démocratique. Je crois que c'est le truc le plus démocratique que l'humanité ait jamais fait en fait. Hein. Mondial, ça, tout le monde avait accès, tout le monde fait quand même un ordinateur évidemment, mais le coût d'entrée technologique est très bas, le langage a été construit pour être très très simple au début. Donc le début était extrêmement démocratique et aujourd'hui on voit toutes les dérives. Ça aurait pu être différent. Au début, ça aurait pu être dans les mains d'une corporation dès le début, et c'était pas du tout le cas. Hein. Et je pense que si ça avait été le cas, le visage du monde aujourd'hui serait effroyablement différent. Je pense qu'on serait dans un monde beaucoup plus cyberpunk que le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc pour la cybernétique, c'est un peu pareil. J'ai pas mal d'espoir dans le fait que ça démarre sur des bases plutôt médicales, comme je disais tout à l'heure, et plutôt nobles, qu'au contraire dans les mains de corporations uniques. Quoi.
Right, and I think like if you really want to get concerned, just look at what's happening with pretty much like any technology in China, where they have like social currency, where you have like a credit score for your behavior, and they actually have cameras watching all the time to make sure, oh, you littered? That's a negative 10 points to your social credit. And there's a thing that actually happens where if someone has very low social credit and you call them on the phone, before you talk to them, you hear a siren. And it says, watch out, this person has very low social credit. They have some loans outstanding. Please remind them to pay their loans. And I'm like, wow, that's got to be terrible. As well as, like, you know, they've got a different internet. It's censored. It's changed entirely. They've got facial recognition everywhere. They have glasses that can search crowds and find people who, you know, have loans outstanding or have warrants. So I think, you know, that the conversation has changed in the past 10 years. Like, 10 years ago, you could say, wouldn't it be cool to have the internet just in your brain? And now you say, God, can you imagine having the internet in your brain? The internet has changed, and technology has changed, and how we use it has changed. I think part of it is because of the Great Recession and what that did to the political scope of, like, the entire globe. But part of it is just there are powerful people and bad actors who have found a useful tool, and they're using it, however, to see the things that they want to see happen actually happen.
Allô? Oui.
Une dernière question.
Oui. Bonjour. Tout à l'heure, Christopher a exprimé l'idée que la mort donne sens à la vie. C'est vrai que c'est quelque chose. On entend très souvent, et j'avoue que j'ai longtemps partagé cette idée. Et puis un jour, je me suis dit, mais finalement, on n'a jamais pu faire une enquête empirique à comparer des gens, demander est-ce que c'est bien d'être immortel par rapport à des gens qui sont mortels. Donc ça me semble une idée, finalement, c'est un peu dogmatique, c'est la pure spéculation. Et je pense que ce qui nous fait peur, c'est un peu de se retrouver comme Bill Murray dans Un jour sans fin, dans Groundhog Day. C'est-à-dire d'être dans une éternité ennuyeuse. Mais je pense qu'il est possible que l'immortalité soit très différente. Donc ma proposition, c'est une immortalité choisie pour une période donnée, comme on fait un abonnement à une revue, à un an, à trois ans, etc. Et au bout de cette période, on dirait, si tous les gens qui ont ce genre d'objection disent, bah oui, non, j'annule mon abonnement. Donc vos commentaires.
who writes this book first among us?
Yeah, I was thinking, I was like, so how much would it suck if you had to depend upon, like, some company for your subscription to stay alive forever? And then, like, let's say, like, one day someone hits the wrong button. Oops. Sorry. We saw that you hadn't, renewed your payment. And now you're dead. So that's that. I really like the idea of life as a subscription. That is very 2018 and very terrifying.
On parlait hier du film Repo Man, qui est un petit peu comme ça. Alors, c'est pas l'immortalité, mais c'est des organes qu'on nous prête des organes cybernétiques qu'on nous prête. Et puis, si on n'est plus capable de payer, on vient les chercher. Et puis, forcément, si on vient les chercher, on nous tue, quoi.
Yeah, but I would say, you know, once again, like, If death is a problem and we could solve it, much like, you know, like living until 80 or being like 6'1" or 6'2" or whatever, that's something that's incomprehensible to an older generation, like to someone who lived in the 19th century. They can't comprehend that. I can't comprehend not dying. I've never tried it personally. So I don't know what it's like, but the idea of not having that occur, on having that be something that's just not part of society is strange to me. The same way, like, for example, clothing. Clothing used to be really expensive. It was really hard to get. And now it's cheap. It's $4 to $5. And if you don't like your shirt, you just throw it away. That wasn't something that happened like 100 years ago. Clothing was hard to do. You would sew it up and patch it. So if you think of death as one of, like, some other part of our lives that we accept currently as an inconvenience, if you could call death not convenient, I personally think death's pretty inconvenient, then it's very hard for us to conceive of a future where it hasn't been solved. But that's not to say that we can't. I don't know. But once we do solve it, then I won't ever be able to understand that life ever again.
Voilà, ben, il est temps de conclure. J'aurais peut-être une petite citation justement de Thinking Eternity qui pourrait nous donner la conclusion à propos du personnage qui est devenu entrepreneur, si on veut. À la réception donnée à son honneur dans les bureaux du magazine, il ironisa longuement sur le fait que la distinction a été décernée à la personne ayant le plus influencé l'année passée, pour le meilleur et pour le pire. L'un ne va jamais sans l'autre, affirma-t-il. Voilà, merci beaucoup. Merci à nos intervenants.